Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, tu nous présentes quelqu'un qui fabrique, qui crée des objets utiles.
Ben, quelqu'un qui a été, qui a fait son éducation là-dedans, donc en design industriel, hein, on apprend à construire des objets et souvent on se retrouve à créer des objets du quotidien, je sais pas moi, des téléphones, des ballons, des trucs de consommation en général. Mais cette semaine, je parle avec Maude Leclerc de Guire, qui me parle, qui est Human Factor Specialist, donc spécialiste en facteurs humains, qui travaille dans une compagnie Clio qui fait des produits pour la santé, donc des objets qui vont dans les hôpitaux, dans les cliniques, principalement aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle me dit que elle pensait pas avoir cette opportunité incroyable de travailler dans un domaine où elle allait construire des objets et qu'elle allait également s'approprier aussi beaucoup le côté de facteur humain, le côté UX, de valider avec les gens, de voir les médecins, de voir les patients, les infirmiers, tout ça, tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et donc, ça a comme donné un tournant à sa vie Elle s'entendait pas à ça en ayant étudié en design industriel.
Oui, ça doit être gratifiant aussi parce que, dans le fond, elle fait des objets qui, par la suite, vont servir, comme tu le disais, à la fois aux médecins, mais pour le bien-être des patients. C'est pas rien. Tu sais, c'est faire œuvre utile avec son savoir. Ça, c'est un bel exemple.
Exactement. Puis et ça permet de sauver des vies. Mine de rien, c'est pas créer un
Ah, c'est
ballon
pas
pour
banal.
Mais créer des objets pour la santé, bon, ça prend des certifications particulières aussi pour l'entreprise qui le fait, mais ça sauve des vies.
Oui, mais permets-moi de dire que quand même, le ballon, ça peut servir l'esprit, le mental
C'est
et le
vrai.
moral de bien des gens aussi.
C'est bon pour la santé.
En plus. Ben,
Voilà.
Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va aller écouter ça à l'instant. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Salut!
Salut, à la semaine prochaine.
Clio, c'est une firme de développement de produits technologiques. Et il y a quelques années, on a décidé de spécialiser dans le développement de produits médicaux. Donc, à la base, il y a pas loin de 20 ans, c'était trois garçons qui faisaient de l'électronique, de l'ingénierie électronique. Puis au fil des années, ben, il y a des expertises qui se sont greffées à ce petit noyau-là. Puis en date d'aujourd'hui, on a évidemment électronique, ingénierie mécanique, logiciel embarqué, développement logiciel, design industriel, design UX UI, facteur humain et qualité.
Ah, c'est deux départements différents, facteurs humains et design UX UI, vous n'êtes pas ensemble?
En fait, on le voit comme expertise, mais en termes d'équipe, design industriel, UX, UI et facteur humain est chapeauté par l'équipe design avec un grand D, on va dire ça comme ça.
Et donc, Clio, ça fait des instruments qui sont utilisés dans le domaine médical maintenant, comme quoi, par exemple, c'est des instruments qu'on croise parfois?
Honnêtement, ça dépend vraiment. Règle générale, là, je te dirais que nous, on vise plutôt le territoire américain. Donc, les probabilités qu'on croise dans la salle de consultation de médecin de famille un outil ou plutôt un dispositif médical est peu probable, mais c'est très varié, là. Ça va. Par exemple, on a un gros projet. C'est un énorme dispositif médical qui est plus gros qu'un IRM, où on peut y aller sur des cathéters ou des petits dispositifs pour venir gérer la sécheresse oculaire. Donc, en termes d'échelle, c'est vraiment vaste, mais aussi en termes de spécialité, là, on fait de la cardiologie, la santé des yeux, la santé de la peau, la dégénérescence cognitive. Donc, ça va. On touche à tout, on va dire ça comme ça.
Ah oui, c'est vraiment immense, mais c'est une grosse entreprise. Vous êtes combien?
Là, si je ne m'abuse, on doit être quoi, environ 80
OK, quand même. Puis
dans
vous
ces eaux-là.
avez des produits qui sont assez larges, somme toute. Puis vous en faites la production également, c'est pas juste la conception?
En fait, c'est ça. On fait le développement de A à Z. Puis là, quand on tombe dans le manufacturing, évidemment, on donne ça à un tierce partie.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une approche clé en main. Ce qui fait aussi probablement qu'on touche à des projets aussi variés et spécifiques de par la myriade d'expertises qu'on a à l'interne, qui permet vraiment de partir d'une technologie, disons, de base, puis être capable d'habiller le produit puis de le matérialiser, en fait, là, lui donner vie en quelque sorte.
Et toi, tu as étudié à la base en design industriel et j'aime beaucoup les UX qui viennent du design industriel parce qu'ils font leur marque quand même dans le domaine du UX en général, de par la formation que vous avez. Et en pré-entrevue, tu me disais que tu aurais aimé savoir qu'il y avait ce que tu fais maintenant, le facteur humain dans une entreprise de santé. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
Oui, tout à fait. Assez tôt dans mes études, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais une facilité plus naturelle à identifier la problématique. Mais lorsqu'il était temps de transposer ça puis de matérialiser une solution, surtout dans le cas qui nous concerne, parce qu'en design industriel, à l'époque, on était très, c'est une culture très axée sur le produit physique à tout prix.
Ouais,
ouais. Ben là, ça se passait moins bien. J'étais moins compétente, tout simplement. C'était moins naturel chez moi. Puis, je me sentais à ma place, mais pas tout à fait. Et après mes études, j'ai essayé plusieurs choses, surtout en tant que design industriel, puis ça collait pas. Moi, j'aimais ça, l'analyse. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit à une amie, je vais être payée pour réfléchir. Je veux qu'on me paye pour mes idées, pour mon cerveau, pas pour mes dessins. Puis on réfléchit aussi en faisant des dessins, mais c'est vraiment de me spécialiser dans mon approche analytique. Puis là, j'ai découvert le design UX. Oh, là, ça a comme sonné une cloche en moi. Je me suis dit, OK, ça se rapproche vraiment de ce que je cherche. Mais c'est quand même, règle générale, le UX designer a quand même un pied dans la conception aussi. Puis là, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Puis il y avait aussi ce désir-là de se rapprocher de l'humain. Parce que j'avais étudié au cégep, j'avais fait une formation où il y a sociologie, anthropologie, psychologie. Donc, tu sais, j'essayais un peu de ramener toutes les pièces du puzzle de
carrière. C'est un mix parfait en même temps, là.
Tout à fait. Donc, par pur hasard, au sein de Cléo, une fois qu'on a été certifié ISO 13485, donc ça, ça nous permet de développer des dispositifs médicaux, il y avait un besoin d'utilisabilité pour un projet en cours. Donc, quelqu'un, un de mes collègues est venu me voir et me dit « Ah, mon, est-ce que tu pourrais nous aider pour faire un dossier d'utilisabilité? » Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? OK, oui, je vais aider parce que je suis prête à essayer des choses. Puis là, ça a vraiment été le déclic, l'épiphanie. Là, j'ai comme compris que c'était ce que je recherchais. Donc, d'être proche de l'humain, d'avoir ce contexte-là médical, mais aussi d'avoir une approche design. Enfin, ça, c'est ma couleur. C'est comment je fais mon travail dans le day-to-day parce que il y a des ingénieurs aussi qui font du facteur humain, puis eux, ils ont leur touch. Donc, ça venait vraiment concrétiser là, tout ce que je voulais en quelque sorte.
Et quand tu dis que tu voulais réfléchir, donc ça te positionne en tant que designer ou en tant que designer UX, peu importe le titre ou en facteur humain, très en amont dans le processus. Quand on vient de voir, l'idée est peut-être pas encore complètement sortie de la boîte. Tu dois être capable de réfléchir en amont avec les gens qui ont eu une idée ou une prémisse d'idée. Là. À quel point t'es très, très proche de ce processus-là?
Oui, effectivement, c'est vraiment en amont. Puis, avec le temps, je me rends compte que mon travail, OK, bien que c'est très centré sur les utilisateurs, les bénéficiaires, bon, toutes les parties prenantes, moi, je travaille pour mes collègues et pour mon client. Dans le sens où je fais de la recherche, je fais de l'analyse, je comprends l'environnement d'utilisation et le contexte, je comprends les gens, les profils d'utilisateurs, utilisatrices qui vont utiliser ça en bout de course. Et je génère du matériel analytique ou méthodologique que je donne à mes collègues en design pour qu'eux puissent faire du travail de qualité. Donc, par exemple, générer des bonnes spécifications d'utilisation ou déterminer tous les paramètres qui vont être présents lors de l'utilisation. Moi, je peux donner ça à mon collègue en design industriel puis dire, regarde, ça, c'est tous les éléments que tu dois prendre en considération quand tu vas sketcher, quand tu vas modéliser. Donc, il y a ce binôme-là, cette approche-là cohésive qu'on maintient tout le long du processus. Même chose pour les tests, ce qu'on appelle les évaluations formatives en jargon développement de produits médicaux. On le fait toujours en collaboration avec les designers UX/UI ou designers industriels. Parce que bien que moi, j'ai l'approche méthodologique puis je suis capable d'animer de manière non biaisée dans un environnement adéquat un test avec des utilisatrices, par exemple, moi, j'ai besoin que la personne en design voir, parce que c'est cette personne-là qui concrétise l'idée. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je me vois. C'est, je fais de la recherche et je réfléchis au service de mes collègues pour qu'on s'assure que le produit, en fait, ne pose pas de risque en bout de course pour utilisateurs, utilisatrices et bénéficiaires du produit. La norme, en fait, pour appliquer l'ingénierie d'utilisabilité aux produits médicaux de la FDA, Elle a été créée en 2007, puis elle a été publiée en 2013, si je ne m'abuse.
C'est récent.
Très récent. Puis il y a une grande culture dans le domaine de l'ingénierie biomédicale et des spécialistes de la santé de, comment je pourrais dire, pas placer les gens au centre, pas placer les utilisateurs, utilisatrices au centre de la conception. Il y a encore aussi un leg de se dire, ah, ben, si le produit est mal utilisé, c'est que les gens ne l'utilisent pas adéquatement. C'est qu'ils sont paresseux ou qu'ils ne comprennent pas. Quand au fond, non, c'est l'inverse. T'sais. Il y a comme une prise de responsabilité de ce milieu-là, de ce secteur-là, qui n'est pas encore pleinement faite. Et on préconise énormément la faisabilité. Très peu le caractère désirable et le caractère utilisable du produit. Quoique, c'est autant important. Il y a des chiffres là, qui ont démontré qu'aux États-Unis, c'est à chaque 2 semaines, OK, il y a l'équivalent des victimes du World Trade Center qui décèdent d'erreurs d'utilisation de dispositifs médicaux dans un contexte clinique.
À chaque semaine?
Aux 2 semaines.
Aux 2 semaines? C'est énorme.
Puis ça, j'avais lu ça dans un livre, Humanizing Healthcare, qui est d'ailleurs excellent, si ça vous intéresse de le lire. Ça me frappait. Parce que là, on prenait une image très forte. Tu sais, le World Trade Center, ça a tellement été dramatique. Puis des fois, les chiffres, ça a un peu une perte de sens. Et là, de donner une image forte à ça, ben, puis ça part de la petite coupure sur le petit doigt à un décès tragique. J'en lisais encore la semaine passée. Des bébés qui se sont roulés autour de leur tube de respirateur. Puis même moi, ça me rappelle au quotidien pourquoi je fais mon travail, tu sais.
Et de là, on retourne à la question initiale du pourquoi tu aurais aimé savoir que ce métier-là existait. Tu sers la société en faisant ce que tu fais ou en faisant tout ce que vous faites, tu sers la société. Est-ce que c'est ça que tu aurais voulu savoir au début?
Oui, parce que, comme j'ai mentionné, l'approche... disons, les sciences humaines, les sciences molles, comme certains l'appellent, m'a toujours passionnée. Mais j'étais pas non plus dans ce désir-là d'être designer à tout prix, puis de concevoir. Tu sais, je suis pas attachée au matériel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, puis d'avoir une quête, de me sentir investie dans ce que je fais. Puis pour moi, il y a des causes. C'est par exemple le manque de représentativité dans les recherches médicales ou même dans le domaine médical. Souvent, au niveau des dispositifs médicaux, les femmes sont mal servies ou par exemple les personnes âgées. Donc, advocate, tu sais, de sentir que je suis là pour servir une cause. Je représente ces gens-là qui n'ont pas de voix.
Ouais.
Qui vont utiliser le produit, qui sont en détresse psychologique et ou physique, et qui ont besoin que ça se passe bien, que ça soit smooth. Ils ont besoin de se faire soutenir. Puis ben moi, je le fais en essayant du mieux que je peux de développer des produits qui sont légers, en termes expérientiels. C'est pour ça que j'aurais aimé ça savoir plus tôt. Hein. Puis il y a une culture très axée sur l'esthétique. Je veux pas dire beau parce que j'aime pas ce terme, mais ouais, puis dans le domaine de la culture du design, là, je veux dire, qui ne m'accrochait pas beaucoup. Je sais pas, je pense vraiment que le facteur humain, l'utilisabilité, puis d'ailleurs le bien à l'extérieur du secteur de la santé peut vraiment aider le design à se repositionner, puis vraiment à se poser les questions qu'est-ce que les gens qui vont utiliser vont vouloir. Puis ça a l'air super basique là, mais je le sais, puis j'ai été de ces personnes-là qui pensaient plus sur une base personnelle. « Bon, je vais faire ça comme ça » ou « Je vais mettre ce feature-là parce que je pense que, tu sais, qu'en fond, ça rend service à personne. » Puis, il y a assez de choses, produits physiques et numériques qui existent sur cette planète qui est dans la crise climatique. Est-ce qu'on peut se responsabiliser davantage? Donc, tu sais, ça va très loin, là, mon discours, mais je vois vraiment comme ça. C'est un peu un reflet de mes valeurs et de mes principes. C'est ça, ma job.
Ça va donner le goût aux jeunes designers de venir travailler avec toi chez Clio, c'est certain.
Je l'espère bien.
Bon, j'aimerais te remercier vraiment, vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était super intéressant.
Ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.